Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. La question de la sensibilisation à l'environnement, à la transition écologique et aux menaces sur la biodiversité est devenue centrale et même décisive dans notre société à notre époque. Dans cette démarche, il y a eu des pionniers, des défricheurs. Parmi eux figurent l'APIEUX, l'atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain, Montpellier-Metz, qui depuis 40 ans arpente le terrain et ensemence les esprits. J'ai invité son directeur, Bruno Franck, merci d'être venu au micro de Divergence FM. Alors vous êtes à la tête de l'APIEUX depuis 10 ans, donc vous avez vu évoluer à la fois le contexte et le travail que fait l'association. Apparemment, vous avez créé, avec d'autres, une association de sensibilisation au développement durable, la DIFED, Dynamique d'information, de formation sur l'environnement et le développement durable, donc un des défricheurs, là aussi, des pionniers à vos côtés sur ces sujets. Mais d'abord, Bruno Franck, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Alors moi, j'ai découvert Montpellier, déjà j'y suis depuis 86, mais en réalité, j'ai découvert réellement Montpellier en étant directeur de l'APIEUX et avec des animatrices et animateurs qui en sont passionnés. Ouais. Donc par exemple, si vous me parlez de l'aqueduc,
oui.
Moi, j'ai un passionné de l'aqueduc qui m'a fait découvrir ça de façon merveilleuse. Si on parle de la promenade royale du Pérou, j'ai des animateurs qui parlent de ça de façon
alors, vous avez
fabuleuse.
Donc ces gens qui servent de guide, hein, qui font découvrir la ville au nom de l'APIEUX, vous ont servi aussi, je dirais, à trouver vos points de repère et à vous enraciner peut-être à Montpellier.
Oui, moi, mon plaisir, c'est d'aller... suivre leurs activités. Je ne suis pas là pour les fliquer, mais au contraire, je suis là pour être un public toujours captif.
Passionné.
Parce qu'effectivement, la différence par rapport à un guide, mais ils le font beaucoup, j'aime beaucoup les guides, mais c'est qu'on est dans des approches très, très actives. Donc, je ne sais pas, sur la comédie, mes collègues ont une petite liste d'objets qu'il faut retrouver quand on est sur la comédie. Il faut retrouver le crocodile, le scaphandrier, l'œuf. Et ça donne un regard qui est complètement différent. Et ensuite, quand on repasse sur la comédie, on se dit « Ah oui, il y a le crocodile, là. Oh oui, il y a telle ou telle chose qui est un peu... qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas des petits exercices, souvent très bêtes, mais qui obligent les gens
à ouvrir l'œil,
à aller regarder ce qu'ils ne seraient jamais allés regarder. Et moi, mes images, c'est des gens à deux qui se font visiter, avec un qui sert d'appareil photo et qui regarde des choses... quand l'autre lui tire sur l'oreille pour que l'objectif s'ouvre. C'est des moments de balade avec les yeux bandés pour se rendre compte à quel point on se rend compte physiquement sur sa peau d'espaces qui sont fermés ou au contraire d'espaces ouverts. C'est la magie d'une balade sur l'environnement sonore et on passe sur la place et il y a quelqu'un qui joue de la musique et ça prend du sens. C'est se rendre compte que quand on est sur le Pérou et qu'on écoute les voitures, ben c'est ce qu'on appelle un bruit blanc. Et ça ressemble aux vagues de la mer si on met les oreilles, en forme de coquillage autour, les mains en forme de coquillage autour des oreilles. Enfin, moi, c'est des choses qui ont été sculptées par le fait que quand j'y suis, ça me remémore des moments, des petites Madeleines de Proust, des moments avec des animateurs qui m'ont fait découvrir des choses que je ne connaissais absolument pas.
Alors, vous êtes intarissable sur le sujet, mais c'est une manière d'aborder ce dont nous allons aborder tout à l'heure. Alors, toutefois, quand vous recevez des amis ou des parents de passage à Montpellier, qu'est-ce que vous leur dites? En quoi, selon vous, notre ville se caractérise, se distingue des autres, ce qu'on appelle maintenant les métropoles? Est-ce qu'il y a un style montpelliérain?
Alors moi, je trouve qu'il y a un patrimoine
Pas une bonne historique bâtie.
Voilà, il y a un patrimoine et qu'on peut tirer des fils. On peut tirer des fils autour de l'eau, on peut tirer des fils autour de la médecine, on peut tirer... voilà, il y a des vraies histoires et moi, j'aime bien les petites histoires de la grande histoire. Et ça permet de ne pas avoir une approche trop académique d'une ville parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'approche sensible qu'on peut développer et aller au jardin des plantes et raconter l'histoire... Des directeurs du Jardin des Plantes qui ont arpenté Montpellier, aller à la mare de Gramont, une petite mare quasiment inconnue parce qu'elle est fermée, elle est fermée tout le temps et qu'elle est ouverte peut-être 2 jours dans l'année pour les journées du patrimoine et pour les portes ouvertes des serres municipales. Et se dire que dans cet espace, on a tous les grands pionniers de la botanique en France qui sont passés, qui ont laissé leur nom sur une petite mare qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui finalement est passée à la postérité parce que beaucoup en ont parlé. Et que, voilà, c'est plein de petites histoires. Et nous, notre métier, c'est de raconter des histoires qui font que la ville est captivante.
Alors, autre question qui fait pour le coup charnière avec le propos que nous allons avoir ensuite. Quel est votre regard sur la manière dont la ville a grandi et comment ces mutations humaines, urbanistiques se sont produites?
Nous, on a toujours un regard à la fois critique et bienveillant. Juste pour ne pas rentrer dans la dimension politique, nous, on a un concept qu'on aime bien, c'est le concept de neutralité engagée. C'est-à-dire, on veut pouvoir travailler avec chacun des partenaires sur des dynamiques de progrès. On a nos avis sur un certain nombre de choses, on les dit aux partenaires de façon très franche, en privé, chaque fois qu'on nous le demande. Après, on n'est pas là pour dire la politique de Montpellier est géniale ou la politique de Montpellier est catastrophique. On donne notre avis.
C'est ça. Moi, vous comportez, je dirais, un citoyen, ou une approche de citoyenneté, je dirais, qui n'est pas une approche militante ou proprement politique.
On n'a pas une approche militante. Par contre, on a une approche pour que ça évolue.
Donc, c'est une forme d'engagement.
On est très engagé. C'est-à-dire, les gens ont du mal à concevoir, et nous-mêmes, parfois, ce que ça veut dire, neutralité engagée. Parce que pour les gens, neutralité, c'est être plat, c'est être non engagé, justement. Pour nous, la neutralité, c'est une posture déontologique qui permet ensuite de dire avec l'ensemble des partenaires, allez, chiche, d'où on part? Est-ce qu'on peut avoir une ambition? Est-ce qu'on peut l'avoir avec vous? Et être trop militant, et j'aime beaucoup les militants, j'ai beaucoup d'amis militants.
Oui,
et
j'imagine il y en a autour de la pieuvre.
Et l'environnement, c'est justement des complémentarités entre des militants qui font qu'à un moment donné, les politiques disent, là, il y a un poil à gratter, il faudrait qu'on fasse des choses. Et puis des gens qui disent « chiche, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux ?» Et il y a vraiment ces complémentarités, que ce soit au niveau des grosses associations nationales, Greenpeace, Poil à gratter, WWF, pour faire des gros partenariats avec des entreprises. Et c'est parce que Greenpeace a fait des opérations coup de poing au port de Sète sur les bois exotiques, que WWF va dire à des associations « et alors, et si on travaillait sur une charte, sur la forêt gérée durablement ?» Voilà, il y a une espèce d'écosystème avec chacun à sa place et on est très complémentaires, donc on s'aime beaucoup.
Avec la volonté que les choses bougent.
Ah, et avec, quand je dis neutralité engagée, c'est que nous, on passe notre vie à vouloir que ça bouge et à faire que ça bouge. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot sensibilisation et je l'assume complètement.
C'est la manière la plus simple, on va voir ça dans le détail, de résumer de ce qu'est la raison d'être principale de la pieuvre.
Nous, aujourd'hui, la sensibilisation, ce n'est pas une finalité, c'est un outil pour du passage à l'acte. C'est-à-dire, on ne sensibilise pas pour sensibiliser, on sensibilise pour que les gens se disent « et alors, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et qu'ils le fassent, parce qu'on est aussi un acteur d'éducation populaire, on n'est pas là pour dire aux gens « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». On est là pour les aider à se construire des grilles de questionnement individuel qui font qu'à un moment donné, ils vont se dire « ça, c'est plus possible ». Acheter cet objet dont je n'ai pas vraiment besoin, connaissant les impacts de sa fabrication et de son utilisation, ben finalement, je vais éviter. Et pas pour dire « ah, ça, c'est mal ».
Oui, ce n'est pas un jugement moral ou je vais dire surplombant. C'est plutôt l'idée, bon, il y a une difficulté, une faiblesse, une problématique qui va croissant, on le sait. Comment on s'y attaque, fût-ce, je dirais, au ras des trottoirs, et dans une approche qui peut être celle des particuliers, quoi, des habitants.
On aime bien les ras des trottoirs. Le ras des trottoirs, pour moi, c'est, par exemple, ça me fait penser, il y a plein de petites herbes folles qui dépassent un peu des trottoirs. Et suivant ma situation, je vais trouver soit que c'est de la saleté et le signe que les agents municipaux ne font pas leur job, ou alors je vais me dire, c'est super génial, ça veut dire qu'on n'utilise pas de pesticides. Et notre job à nous, c'est de faire changer ce que les gens ont dans la tête. Donc c'est qui passe du stade, c'est moche et c'est sale, avec un changement de regard qui va les amener à dire, bon, c'est pas moche, c'est de la vie. Et puis ça veut dire qu'en termes de santé publique, on est sur une ville beaucoup plus responsable.
Très bien. Alors bon, je vous souhaitais vous poser une question sur la raison d'être de l'appui, mais vous venez de la donner. Alors, on va regarder ça de manière plus fine. Vous avez 4 grandes activités, sensibiliser, former, accompagner et créer. Nous allons donc les voir de manière plus précise. Auparavant, dites-nous comment vous êtes organisé, l'équipe, les compétences qu'elle rassemble, les moyens dont dispose de l'APIEU pour développer ces 4 grandes activités.
Alors l'APIEU, c'est une équipe d'une douzaine de salariés qui bossent au jour le jour sur les questions d'éducation environnement. Avec pour les secondés 3-4 volontaires en service civique et souvent un stagiaire long sur l'année. Et c'est un budget d'à peu près 550 000 euros qui nous vient de différentes collectivités et qui nous vient de prestations de services parce qu'aujourd'hui, l'environnement et l'éducation environnement deviennent des choses qui sont achetées par les collectivités. Donc voilà, on fait de l'éducation environnement
acheter
un peu partout.
Sur appel d'offres, sur appel à projet.
Exactement. C'est-à-dire, on a à peu près une moitié de notre budget qui vient de la subvention et à peu près une moitié qui vient de prestations, en sachant que de plus en plus, nos prestations ressemblent à nos subventions. Puisque aujourd'hui, certaines collectivités, on ne va pas s'en plaindre, même si on aimerait d'autres modalités de contractualisation, font des appels d'offres pour mettre de l'éducation environnement sur la prévention des déchets.
Ça,
ou
c'est
sur
un phénomène généralisé des conditions
Exactement.
Dans lesquelles les collectivités subventionnent
c'est ça.
Des tiers, notamment des associations. Et alors, votre équipe, là, quels sont les profils, les compétences que ces personnes mettent à disposition?
J'ai des gens qui sont des animateurs, donc souvent des compétences en animation d'éducation environnement avec des formations spécifiques dédiées, des BP. On a la chance d'avoir un brevet d'animateur professionnel en éducation environnement.
Et puis, oui, c'est un brevet qui existe depuis quelque temps, ça là, oui.
C'est un brevet qui existe depuis quelque temps, depuis 2005, je crois. Il a été gagné de haute lutte le fait qu'on ait une spécialité en éducation environnement. Et malheureusement, c'est aujourd'hui remis en cause, puisque Jeunesse et Sport, ou ce qu'il en reste, considère qu'aujourd'hui, on doit d'abord former des animateurs et qu'ensuite, on leur donnera des spécialités.
Ah, je comprends. D'accord.
Et puis, on a aussi des coordinateurs de projets. Et moi, l'une des particularités auxquelles je tiens beaucoup, c'est que tous mes animateurs sont aussi coordinateurs de projets. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui ne gèrent que du face-à-face avec des stagiaires, c'est des gens qui gèrent
donc,
aussi
ils organisent des actions,
de l'ingénierie pédagogique, de la relation...
Ils rassemblent les partenaires ou les intervenants.
De la relation avec des enseignants, de la relation avec des partenaires. Et dans les choses auxquelles on tient beaucoup, j'ai deux personnes qui interviennent exclusivement dans les quartiers prioritaires.
Alors, quartier prioritaire, je rappelle que c'est un dispositif d'État de ce qu'on appelle la politique de la ville. La politique de la ville, ce n'est pas la politique de la ville de Montpellier, c'est la politique de l'État dans les quartiers qu'on appelle en difficulté, où les problématiques urbanistiques, sociales et économiques sont très fortes et qui appellent donc une attention ou des dispositifs particuliers. Quoi.
Oui, c'est une politique de discrimination positive, on va dire.
Donc ça concerne... Mourson, Paillade...
Voilà, alors pour nous, ça concerne 4 quartiers qu'on a choisis parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs ou parce qu'ils présentaient des problématiques spécifiques qui nous ont touchés. Donc on est historiquement, depuis plus de 20 ans, sur la cité Gély, avec un grand nombre de particularismes, le parc de la Guirlande et d'autres choses. On est sur le quartier Le Maçon, tout petit quartier, un peu plus de 1000 habitants, mais qui maintenant vient d'être regroupé dans un quartier plus grand avec Croix d'Argent.
Ouais.
On est sur les quartiers Cévennes avec beaucoup de renouvellement urbain et pas mal de
grosses opérations
et on est
copropriété des Cévennes. Oui.
Voilà, et on est aussi sur le quartier Petit Bar Pergola.
Très bien.
Donc 4 quartiers sur lesquels j'ai 2 animatrices à plein temps qui au quotidien animent avec les petits et avec les grands des projets d'éducation environnement.
Très bien. Alors, on a vu dans ça maintenant ce que vous faites, avec qui vous travaillez, comment, pourquoi. On va reprendre dans le détail ces différents volets. Et d'abord, nous l'avons déjà évoqué, la sensibilisation qui est le cœur de métier, si j'ose dire, de l'APIEU historiquement que vous perpétuez. Et peut-être pour préciser la question, est-ce que ce travail de sensibilisation, il a évolué, je dirais, dans la fois dans ses objectifs, dans ses méthodes-là, dans ces 10 dernières années?
Oui. Historiquement, l'éducation à l'environnement et la sensibilisation, c'était surtout une dimension purement éducative. Et aujourd'hui, on voit vraiment que c'est une dimension qui accompagne les politiques publiques pour faire changer les comportements des enfants, puisqu'on fait beaucoup d'interventions scolaires, mais aussi les comportements des grands. Donc, nous, notre job, c'est vraiment de faire changer les comportements des personnes, et pour faire changer ce qu'ils font, pour faire changer les représentations, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans la tête.
Voilà, tout à fait. Bon, ça, on va y revenir, parce que je pense que la pédagogie ou l'accompagnement vers les changements de comportement, c'est bien sûr une question tout à fait centrale par rapport aux problématiques actuelles, notamment celles liées au changement climatique. Alors, cette sensibilisation, quelles sont les différentes méthodes ou types d'actions là, que vous développez? Vous l'avez déjà évoqué.
Alors,
quelles sont les principales, je dirais, voilà, comment vous y prenez en définitive?
Nous, ce qu'on aime, c'est faire du projet. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à l'intervention unique. Et donc, on fait des projets, c'est-à-dire des interventions sur plusieurs séances chaque fois que c'est possible. Et ce qu'on crée, c'est du questionnement. C'est-à-dire, on crée l'envie de comprendre comment quelque chose se passe.
C'est-à-dire un phénomène lié à l'environnement urbain, on peut le dire comme ça. Vous allez nous donner un exemple, un phénomène particulier. Comment on le comprend, comment on s'approprie, j'imagine, les caractéristiques de ce phénomène et bien sûr comment on s'efforce de le traiter.
Parce que ce qu'on voit, c'est que les gens ne vont être intéressés que si à un moment donné, ils ont créé une relation un peu individuelle avec un questionnement. Donc ça peut être les déchets lorsque on tombe par hasard, mais c'est volontaire, sur une décharge sauvage. Pour sensibiliser, par exemple, sur la question de la qualité de l'air, on a des activités qui consistent à faire construire un capteur aux personnes. Et une fois qu'on a construit un capteur, on ne regarde plus du tout de la même façon les données sur la qualité de l'air.
Un capteur qui permet de mesurer la qualité
de l'air. Qui permet de mesurer,
en tout cas.
Qui est
réalisable, je dirais, dans des conditions artisanales.
Voilà, conditions artisanales. Et on a un petit capteur de mesure des poussières atmosphériques qui est sur un réseau Internet et qu'on va pouvoir voir à l'échelle européenne et ainsi de suite. Donc, il y a à la fois la fierté de participer à quelque chose et puis il y a le fait d'être dans le concret. Et notre grand ennemi, peut-être pour répondre aussi à votre question, c'est quoi nos méthodes? C'est l'éco-anxiété. On parle beaucoup d'éco-anxiété, les gens qui pensent que tout va mal et que tout va aller encore plus mal. Et la solution, l'antidote à l'éco-anxiété, c'est le fait de se rendre compte que je peux faire des choses. Donc, on fait faire des petites choses aux gens et on se rend compte que ces petites choses, mises bout à bout, elles ont du sens. Par exemple, je ne peux pas lutter contre le réchauffement climatique, je ne peux absolument rien faire. Par contre, je peux manger autrement, je peux me déplacer autrement, je peux habiter autrement, je peux faire plein de choses autrement. Et tout ça, mis bout à bout, ça économise du CO2. Et donc, ça peut concourir, si on est nombreux à le faire.
C'est-à-dire, en luttant contre l'éco-anxiété et l'immobilisation, je dirais, la passivité que ça peut introduire, c'est de remettre ces personnes en mouvement, quoi, dans l'action, à leur mesure, au ras du trottoir, pour reprendre l'image de tout à l'heure, à leur portée.
Tout à fait. Moi, ma formule, c'est vraiment responsabiliser sans culpabiliser. Parce que si je me sens coupable ou si je me sens totalement incapable d'agir, ben, je ne vais rien faire. Et même si je me sens coupable, la première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver plus coupable que moi. C'est-à-dire que je vais me défendre. Alors si je me sens responsable et que je m'aperçois que je peux faire quelque chose, que finalement, ce n'est pas plus problématique, voire même que ça va avoir des avantages collatéraux, je vais sûrement le faire.
Et du coup, chacun peut prendre dans ses conditions sa part de responsabilité individuelle, même, ou à titre personnel, dans un cadre collectif. C'est-à-dire, ça conduit à ça.
Oui, on est dans la fameuse parabole du colibri, quoi. Chacun fait sa part. Et si chacun fait sa part, au final, c'est efficace.
Alors, deuxième volet, mais on y était déjà, parce qu'il y a une diacompa entre la sensibilisation et la formation. Alors, qui formez-vous et sur quoi?
Alors, on forme beaucoup des gens qui sont amenés à gérer de l'éducation environnement. Donc, on forme les collectivités avec le CNFPT. Et surtout,
Les personnels des collectivités locales.
Oui.
Hein.
Et surtout, on forme les futurs animateurs et les futurs coordinateurs de projets. Donc, on intervient beaucoup chez nos collègues qui montent des BP et des DE pour faire réfléchir des futurs animateurs sur leur posture.
Alors, BP et DE?
Donc, les brevets professionnels, les diplômes d'État. Qui sont ces diplômes portés par Jeunesse et Sport, qui sont des diplômes longs, sur au moins une année, voire deux ans, en alternance, c'est-à-dire avec une partie en structure et une partie de formation, et avec quelque chose qui est très un processus itératif, j'apprends en centre, je mets en œuvre, je réinterroge. On est
donc,
pas...
ce sont des diplômes nationaux, hein, oui. bien entendu, donc valorisables quelque
Tout
part en
fait.
France dans
Tout
les années fait. Qui suivent.
Et dont on voit que nos associations sont priantes parce qu'ils correspondent exactement aux enjeux et que les gens qui sont les formateurs sont certes des formateurs, mais sont avant tout des praticiens qui parlent de leur quotidien.
Et alors, c'est, bon, j'imagine souvent des jeunes gens, jeunes filles, vous avez vu leur nombre croître au fil des années, leur motivation s'affirmer, étant donné le contexte que nous savons là, sur ces questions.
On a vu leur nombre croître, on les a vus s'affirmer, on les a vus devenir peut-être à certains moments de plus en plus militants, et on a dû travailler avec eux sur leur posture, savoir s'ils avaient envie d'être militants, et en leur indiquant qu'en fonction des associations dans lesquelles ils allaient travailler, bon, on peut être très militant et faire des actions au coup de poing, ou alors être dans des associations où l'objectif, c'est de faire bouger le public, donc on est, mais où on est un peu plus dans du travail de fond, on
oui,
va labourer
jour après jour.
Jour après jour. Mais voilà, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour qu'on n'ait pas l'impression, quand on laboure jour après jour, de se nier, de ne pas être fidèle à ses valeurs et de vouloir avancer trop vite, ou au contraire, d'accepter ben, qu'on est des médiateurs qui faisons que les choses n'avancent réellement que lorsqu'elles sont faites volontairement par les gens et lorsqu'ils comprennent pourquoi ils le font.
Alors, troisième volet, c'est votre travail en matière d'accompagnement d'un certain nombre de partenaires, des collectivités, des entreprises. Comment ça se traduit, ce volet-là, bon, qui est bien sûr lié aux deux autres volets que nous avons déjà évoqués?
Ben, en fait, nous, on ne peut pas être juste des donneurs de leçons et dire à des collectivités, vous devriez faire ça. Et donc, la façon dont on a trouvé d'être à notre place, c'est d'accompagner des démarches de politique publique, que ce soit sur le développement durable, donc historiquement les agendas 21, les agendas 2030 aujourd'hui, mais c'est la politique de l'eau des collectivités autour des GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, c'est les plans climat sur lesquels on travaille sur mieux se déplacer, mieux habiter, mieux produire. Donc nous, là-dedans, on
Alors,
peut...
Alors je coupe ça à dire, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques, protection des inondations... Et les plans climat, ce sont des outils nouveaux là, qui se sont développés, qui sont obligatoires, qui relèvent généralement des intercommunalités,
oui,
la
des
métropole
EPCI, oui.
pour nous. Et donc là, vous prenez votre part dans ce développement de nouvelles politiques publiques, c'est ça?
Oui, nous, on est surtout présents sur la phase de la concertation, parce que la concertation, c'est le moment où on met un peu à plat des envies, des représentations, on échange sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a une dimension très pédagogique dans une concertation quand elle est bien faite pour savoir d'où on part, vers où on veut aller. Est-ce que les objectifs sont réalistes? Comment on peut chacun prendre sa part? Et sortir un peu de l'opposition entre les acteurs de terrain, les collectivités. Pour nous, ça ne peut marcher que si tout le monde va dans le même sens.
Tout le monde dans le même barque.
Oui, en fait, effectivement, on est sur des approches coopératives et on a bien compris qu'on s'en sortirait par le haut tous ensemble ou qu'on coulerait tous ensemble.
Alors, on a évoqué les collectivités locales, mais bien entendu, ça paraît aller de soi, mais encore, ça méritait d'être précisé. Et alors, en ce qui concerne les entreprises, vous intervenez aussi dans le cadre d'entreprises et comment?
Alors, on peut intervenir sur des entreprises qui se posent des questions relatives à l'économie d'eau, à l'économie d'énergie, à la gestion des déchets. Puisqu'effectivement, elles rencontrent à leur niveau exactement les mêmes problématiques que d'autres, sauf que derrière, il y a aussi des enjeux économiques et que là où il y a quelques années, c'était un luxe et une entreprise disait qu'elle était responsable, aujourd'hui, c'est simplement une obligation. C'est-à-dire, quand on voit les coûts des énergies, jeter de l'énergie par les fenêtres, c'est être quasiment certain que son modèle économique va être totalement obsolète très rapidement. Donc aujourd'hui, on est aussi sur... Et c'est ce qui est intéressant. Il y a quelques années, on parlait d'écologie pour les gens convaincus, passionnés et qui avaient beaucoup de valeur derrière. Aujourd'hui, même si on n'est pas écolo, entre guillemets, on est convaincu que c'est indispensable. Il y a quelques années, quand je parlais de biodiversité, je parlais de l'ours blanc sur sa banquise et de valeur, du droit de toutes les espèces à exister. Aujourd'hui, on parle de l'abeille. On dit s'il n'y a plus d'abeilles demain, ben, c'est 70% de la pollinisation en moins.
C'est moins spectaculaire en image que l'ours sur son morceau de banquise.
Oui.
Mais c'est bien sûr
mais ça parle
aussi
à tout
important.
Le monde.
Oui.
Et si on parle de santé publique, pareil, ça parle à tout
Donc,
le monde.
Donc ça veut dire que la connaissance de ces questions, la culture de la population sur ces problèmes a sensiblement augmenté. Oui. Il y a du chemin à faire, j'imagine, mais bon, on n'est pas dans la situation d'il y a 10 ans ou 15.
En tout cas, il y a 10 ans, on avait un monde qui se séparait entre les écolos et pas les écolos.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui font déjà des choses, ceux qui seraient prêts mais qui ont besoin d'un petit d'être accompagnés, soit pour les rassurer, soit pour leur donner des idées ce qu'ils pourraient faire. Et puis des gens qui sont un peu irréductibles, mais j'ai envie de dire que les irréductibles sont de moins en moins nombreux. Alors c'est mon côté positif. Oui. J'ai une espèce de positive attitude de l'action qui fait que de toute façon, ça demande beaucoup d'engagement, ce que font tous mes collègues, toutes les associations qui vont dans ce sens-là. Donc, il faut qu'on y croie et donc il faut qu'on soit persuadé qu'on sert à quelque chose. Et on est aussi persuadé qu'on sert à quelque chose parce qu'on est positif et qu'on se dit que ça avance, quoi.
Alors, il y a un dernier volet créé en quelques minutes de ce
nous,
dernier
nous, on
chapitre.
Adore, on adore avoir des beaux outils pour intervenir et puis... Justement, si on veut faire changer les idées des gens, il faut leur apporter des beaux outils qui correspondent à nos objectifs pédagogiques. Et du coup, on crée des outils pédagogiques sur les sols, sur les conférences sur le climat, sur différentes questions. Soit des outils très ambitieux qui deviennent des outils formalisés, qui donnent une boîte et compagnie. Là, on finit une boîte sur la loutre. Ouais. Parce qu'on a deux loutres sur le lèse à minima. Et que c'est un enjeu
c'est pas très connu, ça, parce que
sympathique.
On a pu les découvrir au zoo, mais il y en a dans les lèzes.
Voilà, il y en a peut-être beaucoup moins joueuses, mais et c'est une espèce qui est surtout le signe que la qualité des eaux est bonne et qu'il y a des choses à manger. C'est-à-dire, il y a la loutre, mais il y a tout ce qu'elle signifie. Et donc, par exemple, on est en train de finaliser dans le mois qui vient une belle valisette pédagogique pour parler de la loutre. Et donc, avoir des outils pour aller en face des publics et pas simplement...
Alors, des outils que vous utilisez ou qui peuvent être confiés à des tiers, alors, achetés ou donnés.
On a tout. Oui. On a des outils qu'on peut vendre, on a des outils qu'on monte en réseau. Là, par exemple, cette balisette sur la loutre, eh bien, il y a, dans un premier temps, 4-5 associations qui vont l'utiliser. Il y aura des guides animateurs, on va en faire une cinquantaine. Et puis, après, on verra. Et s'il y a besoin, on fera de la formation pour que d'autres s'en emparent et l'utilisent.
Alors, beaucoup évoqué, bon, j'avais prévu cette question à ce moment-là, mais elle était traitée sur le comment, hein, comment vous travaillez, comment cette sensibilisation, l'acquis, l'expérience d'une méthode pédagogique plus active et plus efficace, pour le coup. Alors, je l'ai dit au début, bon, vous avez le label CPIE, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement. Qu'est-ce que c'est que CPIE et donc, qu'est-ce que ça vous apporte?
C'est un label de qualité. Ça veut dire qu'on fait à la fois de la sensibilisation et de l'accompagnement.
C'est un label national. Hein.
C'est un label national, historiquement porté par des ministères, aujourd'hui porté par Union nationale. Ça signifie qu'on fait tous de l'accompagnement et de la sensibilisation, contrairement à d'autres associations qui ne peuvent ne faire que de la sensibilisation. Ce qui veut dire que ça nous donne aussi un regard un peu différent sur la concertation, sur des choses de ce style. On est 80 CPU en France, on est 13 en Occitanie, près de 1000 salariés.
Dans l'Hérault, à part Montpellier
donc... Ah si, on est le seul département en France, il y a 4 CPIE.
Oui, lesquels?
Donc on a un sur le Haut-Languedoc, pour parler plutôt de montagne. Oui. On en a un sur les Causses méridionaux, qui parle beaucoup d'élevage au pied du Larzac. On en a un sur le bassin de Thau qui parle beaucoup de littoral et nous qui parlons d'urbain. Donc, on a chacun notre place.
Très bien. Alors, bon, donc, le CPI vous apporte quoi? Des ressources partagées, des réflexions, de l'influence sur les politiques publiques nationales
Disons, c'est déjà une reconnaissance quand on va parler à des élus. C'est des dynamiques collectives aujourd'hui autour de la facilitation de l'action collective sur les territoires. C'est des projets qu'on partage à l'échelle de la région, par exemple, avec notre union régionale. C'est du lobbying qu'on peut porter aujourd'hui auprès des collectivités avec un peu plus de force parce qu'on est regroupé. Et on a notre réseau, le réseau de CPIE, mais on est aussi très impliqué dans plein d'autres réseaux.
Oui, une dizaine, d'après ce que j'ai vu.
Oui, moi je suis président co-président du réseau départemental d'éducation environnement. Je suis impliqué dans le réseau régional. Je suis impliqué dans l'agence locale d'énergie du climat à l'échelle
Montpellier. Donc il y a un maillage.
Oui, et puis l'idée c'est de faire en sorte que tous ces réseaux se parlent. Donc, on essaie d'être des personnes qui font se parler les réseaux. L'idée, ce n'est pas du tout la notion de pouvoir. C'est plus de la responsabilité que du pouvoir, mais voilà.
Alors, merci. Bon, tout le monde, auditrices, auditeurs, ont bien compris d'avoir la passion qui vous anime. Ça, c'est agréable d'entendre. Et ça suscite nécessairement la curiosité et l'intérêt. Et puis, le champ d'action immense qui est le vôtre et dont on peut penser qu'il va non seulement se perpétuer, se développer. Je vous remercie, Bruno Franck, de
Merci
votre
beaucoup.
Contribution à cette émission. Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.